la flèche irréprochable. Philippe Frétinier sur Radio Grand Ciel.
Lors de la première émission, j'ai expliqué le titre de l'émission, j'ai expliqué pourquoi on commençait par parler de la façade occidentale, puisque d'abord le titre est une allusion directe à l'une des tours de la façade, que la façade, c'est aussi la façade occidentale, c'est en général la première partie de la cathédrale que le visiteur découvre quand il arrive à Chartres. Et puis que cette façade est le point de départ de la cathédrale que nous avons aujourd'hui, tout en étant postérieure à la cathédrale par elle-même, ce qui va être construite derrière. Comme j'aime bien être précis, j'ai mentionné le rôle du voile de la Vierge et des pèlerinages. J'ai parlé de deux pèlerinages importants qui le sont toujours aujourd'hui. Et cela m'a fait laisser dans l'ombre deux autres fêtes religieuses importantes qui étaient l'objet de pèlerinage aussi. C'est la fête de la purification qui se trouvait le 2 février à la Chandeleur. Et puis la fête de l'Annonciation le 25 mars. Donc en fait, il y a quatre fêtes importantes qui ont toutes trait à la Vierge puisque c'est un sanctuaire marial, c'est-à-dire donc la purification, l'Annonciation, l'Assomption et la Nativité. L'autre précision que je voudrais apporter, parce que l'histoire de l'Occident, notamment médiéval, mais l'Occident tout court en général, depuis l'Antiquité gréco-romaine, est très complexe, j'ai mentionné, puisque c'est une partie importante de l'iconographie de l'une des baies du portail royal, j'ai mentionné le rapport à l'Antiquité. Et là aussi, je voudrais préciser les choses, parce qu'on a souvent présenté la chute de l'Empire romain comme étant une période où la culture aurait disparu, aurait sombré. C'est méconnaître ce qui s'est réellement passé. D'abord parce que les fameuses invasions que l'on dit barbares, ces barbares-là étaient déjà romanisés avant de descendre à Rome et qu'ils se sont coulés dans le moule de la romanité quand ils sont arrivés à Rome. Parler de l'effondrement de l'Empire romain n'est pas un concept juste parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Puis par la suite, il va y avoir les deux empires, l'Empire romain d'Occident, l'Empire romain d'Orient, ce qui existait déjà d'ailleurs dans le Bas-Empire. Donc, ce qui fait que la culture a perduré de façon certes chaotique en Occident, parce qu'il y a eu les invasions, et c'est souvent accompagné de pillages, de razzias, de violences, de destructions. Mais néanmoins, on retrouve régulièrement des îlots de culture, de savoir. Je ne vais pas en dresser la liste exhaustive aujourd'hui, mais c'est important parce que ça permet de comprendre le contexte du portail royal à Chartres. Ces îlots de culture, on peut mentionner par exemple, parce que là aussi, ils concernent Chartres, par exemple, les monastères anglais au 7e siècle, et notamment un certain moine qui s'appelle Bède le Vénérable. Pourquoi je vous parle de Bède le Vénérable? Parce que quand on parlera de l'iconographie, notamment au niveau des vitraux, on s'apercevra qu'il y a un vitrail de Chartres qui est inspiré par un commentaire de Bède le Vénérable. Puisque la tradition, pratiquement depuis les débuts du christianisme, c'est comme dans toute religion du livre, du reste. On retrouve ça dans le judaïsme et on retrouve ça dans l'islam avec le Coran et commentaires d'Averroès dont j'ai déjà dû parler un petit peu. On a la passion du commentaire du texte, ce que les savants appellent l'exégèse. Et Bède le Vénérable fait une exégèse de la parabole du bon samaritain et on sait par des textes qu'au moment de la construction de la cathédrale actuelle, on lisait ce texte de Bède le Vénérable. C'est donc tout naturellement qu'on trouve un vitrail qui colle au commentaire de Bède le Vénérable. Ça, Bède le Vénérable, c'est le 7e siècle. Donc vous voyez qu'on n'est pas dans un néant culturel. Le lien avec le monde romain n'est pas totalement perdu non plus. Quand j'ai parlé des textes, notamment ceux qui, au XIIe siècle, et notamment les commentaires d'Aristote par Averroès, dont j'ai déjà parlé, c'est un nouvel apport, mais ça n'est pas quelque chose qui se greffe sur un vide préalable. Il n'y a pas eu un vide qui aurait été rempli par ce que le monde arabe et par l'intermédiaire des Juifs aussi, dans le sud de l'Espagne, aurait apporté ici. D'ailleurs, dans l'art roman, si on regarde par exemple ce magnifique édifice comme par El Monial ou à Autun, il y a des pilastres dans la nef qui sont tout à fait, qui viennent directement de l'Antiquité romaine. Je parle de ça parce que je vais y revenir à propos du portail royal de Chartres. Au XIIe siècle, il y a un apport, mais comme il y en a d'ailleurs beaucoup, et il y en a toujours eu, et ici, il y a aussi une tradition culturelle bien vivante qui a été notamment initiée par ce qu'on appelle la Renaissance carolingienne, c'est-à-dire Charlemagne aux alentours de 750, qui va d'ailleurs vouloir qu'il y ait des écoles autour des évêques et des abbés. Donc les écoles cathédrales, en fait, ça vient de Charlemagne, qui avait dans son entourage plusieurs lettrés, dont l'un des plus connus est Alcuin, qui a d'ailleurs été évêque de Tours, ce qui montre bien aussi les voyages, les échanges, puisque Alcuin, il vient d'Angleterre au départ, il va être à la cour de Charlemagne, et ensuite il sera évêque de Tours. Et Alcuin rencontre Charlemagne dans le nord de l'Italie, donc vraiment il y a une circulation plus importante qu'on ne le dit le plus souvent. L'autre apport qui va aussi avoir lieu à la fin du XIIe siècle, début XIIIe, justement à l'époque de Chartres et qui est très intéressant, c'est la quatrième croisade qui est prêchée par Léon III en 1198. Et les croisés, en 1204, vont ravager Byzance pour en quelque sorte se payer sur la bête, puisque le pape qui lance cet appel à la quatrième croisade n'a pas les moyens de financer l'expédition. On pourrait simplifier en disant qu'il dit « passez par Byzance et payez-vous ». Donc il va y avoir un sac à Byzance, prenant prétexte que des marchands vénitiens installés depuis un certain temps sont en conflit et sont ostracisés. Enfin, on ne va pas revenir trop longuement sur l'histoire de Byzance, mais c'est important. À Byzance, la tradition n'est pas interrompue entre l'Antiquité romaine et puis le XIIe siècle. Et donc des manuscrits vont revenir à la suite de ce pillage de Byzance, en Italie, et notamment à Rome. Donc, c'est aussi un autre apport. Il faut avoir l'idée que l'Antiquité se dévoile par petits morceaux au cours du Moyen Âge. Et à la suite de différents apports, il y a d'abord un relatif continuum, comme j'ai essayé de le démontrer tout à l'heure, et puis bon, l'apport du monde arabo-musulman, l'apport des manuscrits de Byzance, ce qui fait qu'on aboutit à un renouveau au XIIe siècle très important et dont Chartres est un haut lieu. J'ai bien dit que les écoles cathédrales sont nombreuses, ça n'est pas que Chartres. Mais Chartres va avoir la chance d'y accueillir des figures très importantes.
Thank you.
On est donc en pleine effervescence intellectuelle et aussi artistique, parce que le XIIe siècle est un grand siècle pour l'histoire de l'art, à la fois par la place que l'image prend. Avant de parler de l'iconographie de la cathédrale, je ferai une introduction sur l'image médiévale, avec de multiples sources, et là aussi des sources antiques, notamment par l'intermédiaire de Byzance au niveau de la mosaïque, par exemple, et par le développement de l'architecture, qui, dans la foulée de la Renaissance carolingienne, multiplie les inventions avec des vues, avec nos yeux d'aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler des écoles régionales d'une grande diversité, puisque le roman en Provence, par exemple, le porche et le cloître de Saint-Trophime à Arles, sont très différents de l'esprit des églises romanes d'Auvergne, comme par exemple Orcival, Issoire ou Saint-Nectaire. Et on commence à construire de plus en plus grand, même si, par rapport à l'époque ogivale, à l'époque gothique, ces édifices paraissent maintenant petits. Mais c'est cet élan architectural qui, au fond, dès l'art roman, va lancer l'art gothique. D'ailleurs, là aussi, il est important de le souligner, puisque la façade de la cathédrale de Chartres que nous voyons aujourd'hui, suivant les tiroirs dont il faut se méfier de l'histoire de l'art, on peut la rattacher à l'époque romane, aussi bien les tours que les portails d'entrée. Il y a finalement, dans l'histoire, toujours des discontinuités avec des ruptures, que ce soit des révolutions, des guerres, des invasions, mais il y a aussi un continuum, c'est-à-dire qu'il faut arriver à concilier ces deux choses qui sont en apparence antagonistes, c'est-à-dire continuité et discontinuité. Et il faut donc avoir présent les deux termes quand on aborde notamment cette époque-là. Cet élan va continuer avec surtout évidemment l'invention sous l'impulsion de Suger, on peut dire du gothique, puisque vers 1140 à Saint-Denis. Mais Suger fait venir des sculpteurs probablement du sud-ouest de la France. On parle souvent de Moissac, pour la sculpture des portails de Saint-Denis, qui a malheureusement quasi disparu, qui a été très abîmé par l'histoire, notamment la Révolution. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, on retrouve ces sculpteurs romans dans les porches de la cathédrale romane de Chartres. Alors, il y a évidemment toute une série de cathédrales qui se succèdent. Les dates que l'on retient le plus souvent, parce que ce sont des destructions en général, suite soit des invasions, soit des incendies. Donc la première date que l'on retient, c'est la destruction 743 par Hunald d'Aquitaine. Il y a probablement eu d'autres édifices avant, mais on n'a pas de certitude sur la chronologie. Il y a la destruction en 857 par les Vikings. En 962, ce sont les troupes de Richard de Normandie qui viennent commettre des destructions. En 1020, Fulbert lance la construction de la cathédrale qui va précéder la cathédrale que nous connaissons aujourd'hui, qui est dédicacée le 17 octobre 1037. En 1134, il y a un incendie qui ne touche probablement pas la cathédrale, mais qui touche l'Hôtel-Dieu voisin et qui probablement crée de la place pour construire ce qui va arriver par la suite. Et puis enfin, il y a l'incendie de 1194, date à partir de laquelle on édifie la cathédrale que nous voyons aujourd'hui. Mais encore une fois, dans la cathédrale que nous voyons aujourd'hui, la façade vient des édifices postérieurs. Je parlais du lien avec l'Antiquité, mais si on considère le portail royal, qui est composé d'une baie centrale importante et de deux baies latérales un peu moins importantes, qui sont coincées entre les deux tours, pourquoi les trois portails ne font pas toute la façade comme pour les transepts? Tout simplement parce que on a décidé de construire des tours en avant de la cathédrale de Fulbert, et que ces tours doivent communiquer avec les deux bras de la crypte. D'ailleurs, on a trouvé une fenêtre murée du côté oriental de la tour nord qui montrait bien qu'il y avait communication. Donc, on ne pouvait pas mettre des porches devant pour fermer, obstruer finalement les accès à la crypte. Il fallait qu'il y ait communication entre les tours et les bras de la crypte. Et si on regarde bien comment est composé ce portail, c'est rigoureusement composé comme un arc de triomphe romain, avec l'arche centrale plus haute, deux arches latérales plus basses, la corniche avec les modillons qui servent d'architrave, les rythmes verticaux entre les porches, et on a tout de suite à l'esprit, pour ceux qui le connaissent, l'arc de triomphe romain qui date probablement du IIe siècle, de Reims. Donc, ça n'est probablement pas le fruit du hasard, c'est la ressemblance entre l'arc de triomphe romain et l'arc de triomphe à Chartres, parce qu'en plus, c'est le triomphe de la royauté du Christ, hein, avec un jugement dernier qui va être dans la rose au-dessus, qui sera du XIIIe siècle, puisque au XIIe siècle, l'iconographie du portail de Chartres s'apparente tout à fait à l'iconographie des églises romanes, c'est-à-dire qu'on a dans la baie centrale un Christ en gloire ou en majesté, comme on voudra, accompagné des symboles des quatre évangélistes, et puis les 24 veillards de l'Apocalypse, qui est donc évidemment tiré de l'Apocalypse de saint Jean. J'attire d'ailleurs l'attention sur les symboles des évangélistes autour du Christ dans le portail central, dans le tympan. Dans l'iconographie, les saints sont entourés d'un nimbe pour bien préciser que ce sont des saints. Les apôtres, pas toujours, et c'est le cas un peu particulier des emblèmes des quatre évangélistes dans le tympan, puisque il y a un nimbe, mais juste autour de la tête d'aigle qui symbolise saint Jean. Celui qui voit et celui qui voit au fond le monde invisible dont il va parler dans l'Apocalypse. C'est probablement pour ça que lui a le nimbe. Alors que Matthieu, c'est plutôt, ça commence par la généalogie du Christ. Voilà. Donc c'est vraiment une particularité, si vous regardez bien, parce que je le dis parce que peu de gens le remarquent. Ce nimbe autour de la tête de l'aigle. Et nous avons dans les pieds droits des statues qu'on dit colonnes. Alors, il faut faire attention parce que des statues colonnes faisant partie proprement de l'architecture, c'est-à-dire ayant un rôle structurant dans la construction de l'édifice, comme par exemple les Rectaeion à Athènes, où les fameuses cariatides supportent l'architrave. À Chartres, ça n'est pas le cas. Les statues sont devant une colonne, elles sont taillées dans le même bloc que la colonne derrière elle, mais elles ne jouent aucun rôle structurant dans l'architecture, elles ne supportent rien. Là aussi, il y a avec l'art roman, parce que probablement qu'on retrouve d'ailleurs l'esprit du porche de Notre-Dame-du-Fort à Étampes. Certains chercheurs font des liens d'ailleurs avec des statues du portail gauche et les statues d'Étampes, en disant que peut-être des maîtres d'Étampes sont venus à Chartres. Et si vous regardez d'ailleurs attentivement les statues, les fameuses statues colonnes, vous verrez qu'il y a une évolution avec un côté peut-être sans acception péjorative, un côté plus archaïque dans les statues colonnes de la baie de droite. Et puis petit à petit, une évolution avec le porche central et la baie de gauche. Ces baies paraissent très élancées et elles l'étaient encore plus au XIIe siècle, puisqu'on a trouvé la base d'émoulurations des tours en dessous du pavage de ce qui fut le narthex, c'est-à-dire de l'entrée de la cathédrale. Donc les marches que nous voyons au portail royal ont été rajoutées postérieurement. Cela d'ailleurs montre bien la similarité avec Étampes. Les statues font donc corps avec la colonne puisqu'elles sont taillées dans le même bloc de pierre. Et si on regarde bien, aujourd'hui, on voit qu'il y a des colonnes où il n'y a pas de statues. Alors il faut savoir que ce sont des statues qui ont été déplacées ou détruites et que probablement la statue célèbre de l'ange au cadran à l'angle de la tour sud est une des statues qui vient du porche de droite. Alors, c'est la thématique de l'Ancien Testament. Et au porche central, vous avez sur l'ébrasement de droite, vous avez la reine de Saba, David, Salomon. Et d'ailleurs, petit détail, la numérologie étant quelque chose de fréquemment utilisé au Moyen-Âge, il se trouve que si vous prenez le nom de David, en hébreu qui ne connaît pas les voyelles, où seules les consonnes sont écrites, David, ça s'écrit donc avec la lettre Dalet pour le D, Vo pour le V, donc ça fait DVD. Dalet, Vo, Dalet. Et si on associe des nombres, comme on le faisait à l'époque, des valeurs numériques à ces lettres, il se trouve que ça fait, on aboutit à la somme de 14. David est à la 14e place dans le portail de la cathédrale en partant tout à fait de la gauche. Et ce n'est pas par hasard, puisqu'il est le 14e dans la généalogie de Matthieu, justement. J'ai mentionné déjà le tympan de la baie de droite, avec les figures de l'Antiquité. C'est pour ça que j'ai pris le temps de refaire un détour par la filiation avec l'Antiquité et les textes, même si cette histoire est un peu tourmentée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, ça ne doit rien au hasard, et ça reprend ce qui a été développé notamment au IXe siècle dans l'école palatine de Charlemagne, où on a vraiment renoué avec la vision du savoir de l'Antiquité tardive et notamment les arts libéraux, puisque finalement l'humanité a toujours eu, en tout cas l'Occident, a toujours eu, mais on trouve ça aussi dans le monde arabe, toujours eu l'idée de classer, d'ordonner les choses. Donc on essaye d'ordonner les différentes branches du savoir entre elles. Et Boès, donc dans l'Antiquité tardive, va être un des textes de référence connus sous le nom des arts libéraux, où on classe les différentes branches du savoir qu'on organise en quadrivium et en trivium. J'y reviendrai la prochaine fois.